sur Europe 1. Merci d'être avec nous.
Soir week-end, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Depuis une semaine environ, la Pologne est sous le foudre et le feu des projecteurs. Son gouvernement conservateur a remis entre les mains du tribunal constitutionnel une épineuse question. Qu'est-ce qui prévaut ? Le droit national ou le droit européen ? Les juges suprêmes ont tranché pour la première option. Et depuis, le monde entier, notamment les pays voisins, ont trouvé un nouveau sobriquet. Polexit. Déjà vu, vous me direz, bien sûr avec le Brexit, oui, mais les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes. D'abord, seuls 5% des Polonais souhaitent sortir de l'Union. Aucun référendum n'a été fait là-dessus, depuis le vote sur la Constitution européenne en 2005. Ce qui n'a pas empêché des centaines de milliers de Polonais de sortir dans les rues ce dimanche pour protester contre un éventuel Polexit. Voilà, vous entendez le reporter en direct dans une de ces grandes villes polonaises, reporter de la chaîne d'info en continu TVN24, manifestation de Gdansk à Zakopane, dans les plus grandes villes, Varsovie, Poznań, Katowice, Cracovie, etc., avec des manifestants aussi pour la souveraineté et donc contre la primauté du droit européen. C'est sur cette opinion que s'est rangé le candidat Arnaud Montebourg, interrogé ce matin au Grand Rendez-vous d'Europe.
Je crois que l'affirmation qu'une constitution est supérieure et doit être supérieure aux décisions qui sont prises par l'Union européenne, pour moi, c'est une évidence, presque une lapalissade. Je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais. Néanmoins, le fait qu'un État membre aujourd'hui veuille réaffirmer la suprématie de sa loi nationale me paraît être le chemin que la France doit emprunter.
Arnaud Montebourg, ce matin au Grand Rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos, dirigé par Sonia Mabrouk. Arnaud Montebourg, qui rejoint donc deux autres, Marine Le Pen et Éric Zemmour, sur ce côté-là. On le sait, pas que.
Non, Xavier Bertrand est également sur cette position-là. Il me semble que Michel Barnier absolument aussi, ça fait partie de leur proposition. Donc, non, ce n'est pas seulement l'extrême droite ou ceux qu'on appelle l'extrême droite qui réfléchissent à ça. Donc ça fait, si je compte bien, 5 candidats qui mettent la question, qui mettent la question sur la table.
Alors on parle d'une polémique, mais est-ce que finalement ça fait pas du bien d'entendre par là aussi que le droit français peut prévaloir merci.
Bah, ça paraît,
moi polonais, moi pas français.
Ça paraît même assez assez logique que le droit français, on n'a pas élu de juge européen que je sache, et ça paraît logique que les lois françaises priment sur les lois européennes. L'Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande, dans un arrêt du 5 mai 2020, affirmait la même chose, que le droit allemand devait prévaloir sur le droit européen. Et ça s'inscrit, je crois, dans une vaste de questions sur ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, on peut aimer ou pas aimer le gouvernement polonais, mais aujourd'hui, c'est lui qui
défend... C'est ce que dit Arnaud Montebourg, d'ailleurs. Il dit « j'ai pas de sympathie pour le gouvernement polonais ».
À mon sens, qui défend la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est d'abord la souveraineté populaire, certes avec un certain nombre de contre-pouvoirs, mais je trouve que l'évolution de ces dernières années, c'est que ces contre-pouvoirs ont pris trop de poids, avec un conseil constitutionnel qui bloque systématiquement un certain nombre de lois. On voit que ça entrave la possibilité d'agir des politiques. Et quand en plus, c'est à l'échelle européenne, avec une Cour de justice européenne qui voudrait s'ériger en Cour suprême européenne, alors qu'il n'y a aucune base juridique pour cela et aucune base démocratique pour cela, oui, on est dans une forme de coup d'État des juges.
Que dit le magistrat Georges Fenech là-dessus ?
Non, je ne partage pas cette opinion, même si j'entends les arguments. Quel chemin doit-on prendre ? C'est la question de Montebourg. Il ne faut pas prendre un chemin, dit-il, qui consiste à finalement céder un peu de sa souveraineté au profit des instances européennes. Mais si on suit ce raisonnement, qui effectivement aujourd'hui rencontre un certain succès, notamment auprès de plusieurs candidats, et pas uniquement la droite nationale ou extrême droite, puisqu'effectivement, Barnier, qui était quand même le champion oui. De la défense européenne, se retrouve aujourd'hui le champion de la remise en cause des décisions et de la suprématie européenne. De deux choses l'une, soit on est en Europe, soit on sort de l'Europe. Hein, y a pas... Là, c'est une forme de Brexit
vraiment
juridique.
Vraiment ?
Ah, oui, si effectivement vous considérez, alors que c'est quand même une jurisprudence bien établie jusqu'aujourd'hui, que le droit européen n'est plus, ne s'impose plus au droit national, il faut quand même bien voir que le droit européen, ce n'est pas un droit hors sol, hein, c'est un droit qui est construit par les États membres. Mmh. C'est des traités qui ont été approuvés. L'article 55 de la Constitution parle de la force du traité.
Est-ce qu'il a été approuvé dès le départ que le droit européen prévalait sur le droit national?
Ben, ça résulte d'une jurisprudence très ancienne de la Cour de justice de l'Union européenne et qui n'a jamais été remise en cause jusqu'aujourd'hui. Et ça se traduit par, effectivement, dans des décisions de justice, notamment, par exemple, lorsqu'un un justiciable considère qu'une loi interne, la loi française, n'est pas conforme aux principes européens, aux traités européens, le juge, et d'office, il peut le faire lui-même, d'ailleurs, il peut soulever la question préjudicielle et interroger l'Europe sur la conformité d'une loi. Et donc, il peut, c'est vrai que c'est un pouvoir très important, le juge peut écarter une loi interne au bénéfice d'une norme supérieure. Encore une fois, si on remet en cause ces principes, c'est un Brexit juridique qui est le...
Un polexit, du coup.
Oui, un polexit ou un frexit.
Ou un bruxellesit.
Voilà. C'est la remise en cause des traités. C'est le commencement de la fin de l'Union européenne.
Non, je pense que ça va... Pardonnez-moi. Je pense que ça va même plus loin que ça, le sujet. En fait, ce n'est pas tant est-ce que la Pologne veut sortir ou pas de facto, hein, parce qu'en fait, c'est ça, de l'Union européenne. Mais en fait, le risque, c'est que la Pologne sort, dans les faits, de l'état de droit. Et c'est de ça dont il s'agit en réalité. Une des dernières provocations, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on parle quand même de l'état de droit de l'exécutif en ce moment polonais.
Enfin, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, il peut y avoir un état de droit en Pologne sans forcément un état de droit européen en Pologne.
Mais parlons du point bloquant. Pourquoi l'Union européenne a regardé ce qui se passait en Pologne et notamment au regard des valeurs, des normes européennes et des règles judiciaires européennes? C'est qu'il y a une réforme judiciaire en cours en Pologne, avec notamment dans cette réforme judiciaire la création d'une chambre disciplinaire de la Cour suprême qui serait chargée de superviser les juges. Et là, la Cour européenne a dit très bien, mais nous n'avons pas les garanties nécessaires montrant qu'il n'y aura pas de sujet d'impartialité ou d'indépendance des juges. Et donc là, effectivement, se pose la question de l'état de droit. Ensuite, vous disiez à très juste titre tout à l'heure, oui, mais la démocratie doit primer. Eh bien, très bien si la démocratie doit primer. On l'a dit justement avant, la Pologne est rentrée dans l'Union européenne par un référendum. Mmh. Un référendum où il y a eu à peu près de 60% de taux de participation et le oui a gagné à 77%. Et là, on le voit encore, les Polonais n'ont pas forcément envie de sortir de l'Union européenne. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Rentrer dans l'Union européenne, c'est pas juste rentrer dans un club où on se serre la main et c'est trop cool d'être ensemble.
Et
c'est aussi défendre.
Pourquoi ça ne s'applique pas à l'Allemagne, par exemple ?
Je finis ma phrase. C'est aussi défendre des valeurs et protéger les peuples d'éventuelles dérives nationales.
Philippe Doucet.
Moi, je pense qu'il y a deux sujets dans cette affaire. D'abord, c'est un sujet très important. C'est pas un sujet médiocre. Premier sujet, il y a la question du rapport de la Pologne avec la question démocratique. Parce que qu'ils soient dans l'Union européenne, qu'ils soient pas dans l'Union européenne, le fait qu'ils veulent arrêter la séparation des pouvoirs exécutif-justice, c'est un sujet de droit, de démocratie, Union européenne ou pas Union européenne. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le rapport que nous avons au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai que, par rapport à ce que M. Devecchio évoquait sur la cour de Karlsruhe, les Allemands... Oui. Hein, la Cour de Karlsruhe, c'est-à-dire leur conseil constitutionnel à eux, garde un contrôle de fait sur les décisions européennes, ce qui n'est pas le cas du conseil constitutionnel français. Donc les Allemands, même si il y a discussion en Allemagne, la Cour de Karlsruhe garde ce contrôle. Et deuxième élément que le Parlement français ne fait pas, et à tort, puisque ça avait été l'objet de discussions au Parlement, quand nous y étions ensemble, c'est que le Bundestag allemand, dans ses commissions, étudie les directives de l'Union européenne en parallèle ou préalablement. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Je rappelle qu'au sein du Parlement français, même si ça avait été une proposition qui avait été faite, il n'y a pas de commission Europe pour examiner les textes européens, ce qui est une erreur de fond. Donc, le sujet, là-dedans, on a un sujet démocratique, parce que si Arnaud Montebourg fait ses propositions, et d'autres, même Michel Barnier, c'est qu'on sent bien qu'il y a certes une Cour de justice de l'Union européenne, mais honnêtement, qui la nomme d'un côté, et comment les États membres, mais on voit bien que la question démocratique au sein de l'Union européenne, je mets à part la Pologne, au sein des fondateurs, on a cette question-là. C'est-à-dire que les Français, si on veut qu'on continue à construire l'Europe et pas faire un Frexit, et je crois qu'Arnaud Montebourg était très clair, il dit « moi je veux pas de Frexit », c'est comment, sur un certain nombre de choses, on porte une Europe plus démocratique. De ce point de vue-là, peut-être qu'on aurait intérêt à regarder la proposition qu'avait fait Thomas Piketty il y a trois ans de mémoire, d'un Parlement de l'euro où, finalement, il y aurait ceux qui sont engagés monétairement ensemble, eh bien, qu'il puisse y avoir un contrôle démocratique oui. par des représentants des parlements nationaux sur l'Union européenne.
C'est-à-dire qu'on adhère à tout, y compris la zone euro, y compris la monnaie, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème, c'est qu'on est entre deux eaux. C'est qu'on a transféré.
C'est le cas des Anglais. Donc, effectivement, les Polonais ont leur monnaie.
Ça s'appelle le fédéralisme, et ça, personne ne le souhaite. En tout cas, peut-être des politiques le souhaitent, et c'est très bien. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils l'assument complètement. Mais ça ne peut pas se faire sans l'aval des peuples. Et c'est tout le, problème de la construction européenne, c'est qu'elle se fait, c'était la stratégie des petits pas par Jean Monnet. On fonctionne en intégrant un certain nombre de secteurs, en espérant qu'ensuite, de force, on sera dans l'obligation d'aller vers de faire le fameux grand saut fédéral. Or, on voit bien qu'il n'y a pas les majorités populaires pour faire cela. Maintenant, je pense que ça pose plus largement la question de l'état de droit. Je crois qu'on fait comme si l'état de droit était quelque chose de sacré qui descendait quasiment du ciel. Non, l'état de droit, ça se construit, c'est la volonté des politiques d'abord, ça se modifie et j'espère pour ma part qu'il sera en grande partie modifié en France. Aujourd'hui, l'état de droit, ce qui fait qu'on ne peut pas, par exemple, expulser un réfugié qui est soupçonné de terrorisme ou qui est même reconnu comme une menace. Le Conseil constitutionnel français a pris un certain nombre de mesures pour refuser ce type d'exclusion-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui
pas
peuvent
d'accord,
être...
Pas d'accord, pas d'accord, là,
être,
dans l'Assemblée.
Il y a une décision très récente d'un réfugié qui était... accusé d'être une menace terroriste, et le Conseil constitutionnel a refusé l'expulsion. Il y a des cas comme ça tous les jours. On l'a vu avec Notre-Dame de Nantes, etc. Donc, il y a, à mon avis, aujourd'hui, il y a le droit à trop de poids et entrave le politique. C'est aussi une question qui se pose en France avec le Conseil constitutionnel français, et ça se modifie. Ça peut très bien se modifier. Il y a d'ailleurs un certain nombre de candidats qui peuvent le modifier.
Je crois qu'on est un peu sur une pente assez dangereuse, parce que j'entends souvent, tous les jours pratiquement, remettre en cause l'état de droit. Voilà.
Pas l'état
de droit, c'est ce qui nous protège. C'est-à-dire ce qui protège les libertés individuelles, les personnes, contre un éventuel arbitraire de l'État. C'est ça, l'état de droit. Et on nous dit, et vous l'avez dit à l'instant, d'ailleurs, vous avez parlé de coup d'état des juges. Mais enfin, les juges, ils sont là pour appliquer les lois et les traités internationaux. Ils sont nommés. Alors, vous voudriez quoi? Des juges? Parce que vous dites, les juges ne sont pas des élus.
Non mais,
donc,
mais
ils n'ont
non
pas
mais,
beaucoup plus loin
non
que
mais
ça.
Je pense
que mais
les juges sont démocratiques.
Quand on conseille constitutionnel, il n'a pas tous
en même temps.
On remet même en cause l'impartialité, la légitimité du Conseil constitutionnel aujourd'hui en France, en disant... C'est un conseil politique, il n'a pas légitimité propre, ils sont nommés, mais bien sûr qu'ils sont nommés. Ils sont nommés par des autorités démocratiquement élues.
T'as un problème politique, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est l'empire de la norme. Donc, à un moment donné, on n'a pas vraiment avancé par des sauts politiques, on avance par des sauts de normes. La difficulté de ça, c'est que soit, moi je ne suis pas dans une logique de repli national, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un saut politique, soit on a un saut politique en avant, mais on fait de la politique. Et la politique, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit au peuple, si on veut peser dans les affaires du monde face aux Russes, aux Chinois, aux Américains, bah, soit on pense que les 67 millions de Français, certes, avec nos petits bras musclés, avec la potion magique, on peut tenir, on peut y arriver. Ça peut être un chemin, c'est ce que propose M. De Vecchio et d'autres, un certain nombre de souverainistes français. Ça s'entend, c'est respectable, c'est un chemin. Moi, je n'y crois pas, parce que dans les affaires du monde, vu la violence qui est en train de monter partout, les confrontations, il y a intérêt à être fort. Et mine de rien, moi, je pense qu'il y a une civilisation européenne. J'aimerais toujours qu'on emmène les 67 millions de Français en Inde 3 jours pour se rendre compte que très vite, on est 13 Européens entre nous. Comment on vit ça donc. Mais par contre, il faut qu'on ait un saut politique. Tu ne peux pas faire qu'un saut par la norme. Et le problème du saut politique, c'est qu'il faut effectivement assumer, mais pas tout seul, parce que c'est une construction avec d'autres. Parce
que c'est presque un vœu pieux aujourd'hui, hein, quand je vois
c'est
la Grande-Bretagne qui se retire, la Pologne qui veut pas l'appliquer, des responsables français.
Peut-être, on verra. J'ai cru entendre que François Hollande, dans son prochain livre, propose qu'on sorte de l'Europe à 27, qu'on soit plus dans la logique des 27, mais peut-être qu'il faut repartir sur les fondateurs de l'Europe.
C'est ce que
sont les 6 ou 9 pays initiaux pour dire, à un moment donné, est-ce qu'entre nous...
On est à la croisée des chemins aujourd'hui, et c'est de la survie, moi je dis, de l'Europe qui est en jeu aujourd'hui. Vous voudriez quoi? Vous voudriez supprimer la Cour européenne des droits de l'homme? Vous voulez vous retirer de la Convention européenne des droits de l'homme?
C'est une possibilité. Mais on peut en revoir.
Non, mais c'est pas possible.
Voilà, non, il faut le dire clairement.
Non, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de se dire qu'effectivement, il y a un sujet sur l'Europe, il faut reposer les bases, revoir comment cette construction européenne se fait. Voilà, par quoi, enfin, remettons les choses à plat. Mais ça ne veut pas dire tout de suite, prenons le bébé et l'eau du bain et bazardons tout. Je pense que ce n'est pas du tout responsable dans le monde tel qu'il est et toutes les tensions géopolitiques que nous connaissons et dont nous avons énormément parlé au cours des dernières semaines. Donc oui, il faut pour moi, et vraiment, je engager un chemin pour aller vers plus d'Europe, consolider nos acquis, voir effectivement dans quelle modalité le faire. Mais n'oublions pas, ce n'est pas un repli sur soi qui va nous permettre aujourd'hui d'affronter toutes les tensions qu'il y a dans le monde et faire en sorte que la France pèse, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Et notamment à l'heure où, et ça c'est une chance dans ce contexte-là, la France va prendre la présidence de l'Union européenne d'ici quelques semaines. Donc nous avons 6 mois pour amorcer
une
nouvelle démarche.
Pourquoi vous voyez Alexandre de Vecchio ?
Non, bah c'est bien, ça va permettre d'avoir ce débat assez clairement. Après, moi, je pense qu'il faut une Europe politique, mais l'Europe politique, on l'obtient par de l'intergouvernemental, par de la coopération avec les chefs d'État, et pas en produisant de la norme et du droit. Je pense qu'on ferait beaucoup plus de politique si il y avait un peu moins de normes et de droits. J'ai cherché, du coup, pour ne pas dire de bêtises, alors c'est une décision pas du Conseil constitutionnel, mais du Conseil d'État du 12 février dernier. Mm-hmm. Voilà, l'administration voulait expulser un ressortissant russe d'origine tchétchène, on va être très précis, condamné pour apologie du terrorisme. Le Conseil d'État a jugé que l'apologie du terroriste n'étant pas un crime mais un simple délit, il n'y avait pas motif à le renvoyer chez lui. Et ça fait partie des choses qu'on peut réécrire, modifier, je pense.
C'est dans notre loi. Il faut qu'on modifie notre loi.
Mais oui,
loi
il faut modifier.
Prévoit,
ça se modifie. C'est pour ça que je dis que l'état de droit, ça se modifie.
Permettez,
on dit la même chose.
Je ne parle pas l'état, je parle de la loi, là. Ouais. Vous faites référence à une décision qui s'appuie sur une loi interne qui dit qu'un réfugié ne peut être expulsé que s'il encourt une peine ou qu'il a été condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement. On n'a qu'à modifier la loi. Là, c'est une question du législateur français. Vous voyez, vous dites, on remet en cause le Conseil d'État, on remet en cause le Conseil constitutionnel, on bazarde tout. Non, on ne fait qu'appliquer la loi interne voulue par le législateur français, en espèce.
On va continuer à trouver des solutions autour de cette table. Finalement, on va y arriver avec Georges Fenech, Alexandre Devecchio, Philippe Doucet et Prisca Thévenot. Restez avec nous, ce sont les débats d'Europe Soir.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, membre du Conseil national du PS, Philippe Doucet, mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio, et le magistrat Georges Fenech. Alors, résumé des épisodes précédents, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et on essaye d'avancer. Alors, le dernier épisode en date, c'était une joute entre Alexandre Devecchio et Georges Fenech sur la remise en cause de l'état de droit. Finalement, c'est la remise en cause d'une loi. Donc finalement, c'est quoi ? C'est la montagne qui accouche d'une souris.
Je dis juste que l'état de droit n'est pas en soi une fin. D'ailleurs, on peut rajouter Valérie Pécresse avec Patrick Stefanini qui demande aussi une réforme de la Constitution pour qu'il soit possible de limiter l'immigration, de procéder à un certain nombre de quotas. Donc il n'y a pas que moi qui veut modifier. Il ne s'agit pas de mettre totalement à bas l'état de droit, mais je constate que depuis quelques années, l'état de droit, en Europe encore plus, mais aussi en France, prend de telles proportions qu'il est de plus en plus difficile de légiférer sur un certain nombre de questions. Et moi, je pense que la démocratie, c'est d'abord et avant tout la souveraineté populaire. Il ne faut pas tomber dans la tyrannie de la majorité. Il faut bien des contre-pouvoirs. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans la tyrannie des minorités, dans la tyrannie du droit par rapport à la souveraineté populaire.
Vous voudriez qu'il y ait un état de droit qui puisse changer, comme par exemple, à un moment très précis de l'histoire américaine, on a créé Guantanamo. Et dans ce cas-là, ça a été un écart à l'état de droit.
Oui, là, vous prenez l'exemple le plus polémique.
Mais de quoi parlons-nous pour la Pologne ?
On peut faire des choses légalement. On peut réécrire.
Pardon, sauf erreur de ma part, Guantanamo n'est pas dans l'état de droit. C'est justement parce que c'est à Cuba.
C'est hors territoire.
C'est hors territoire qu'en fait, l'état de droit américain ne s'applique pas.
Mais appelons un chat un chat. C'est les Américains qui l'ont fait.
Je dis aussi simplement qu'une constitution, ça se réécrit. Les traités européens, ça se renégocie. Ça s'appelle faire la politique.
Non, mais de quoi parle-t-on ? Non, mais encore une fois. Je suis vraiment navrée. On peut, quand on dit des grandes phrases comme ça, etc., il faut parler du concret. Là, en l'occurrence, on parlait de la Pologne. Et la Pologne, il ne s'agit pas simplement de dire la Pologne va décider de mettre des quotas ou de revoir sa politique migratoire. Il s'agit pour la Pologne de venir vraiment regarder ce que font les juges, éventuellement mettre en place des mesures disciplinaires par rapport aux juges, sans avoir aucune preuve de l'indépendance de l'exécutif.
Le débat existe en France sur
ce cas polonais.
Y compris le ministre de la Justice pense que les juges doivent être tenus responsables d'un certain nombre de choses. Donc je ne sais pas exactement quel est le dossier polonais, mais je me méfie toujours des accusations. Dire qu'ils veulent abolir la séparation des pouvoirs, ça me paraît un peu gros.
Après, derrière, on voit bien que c'est quand même un régime tout à fait particulier en Pologne aujourd'hui qui est en train de sortir d'une logique démocratique au sens où l'Europe occidentale, nous l'entendons. Et donc, la question de la Pologne, qu'ils soient dans l'Europe ou pendant l'Europe, enfin, il y a une discussion interne, je pense qu'il y a des manifestations, en train de vouloir sortir d'un état de droit au sens occidental que nous entendons, quelle que soit l'histoire des règles européennes. Sur l'histoire de l'Union européenne, sur l'histoire, par exemple, de ce que vous évoquez à propos de Valérie Pécresse, le problème qu'on a par rapport à ça, c'est peut-être, c'est pas qu'il y a trop d'Europe pour le coup, c'est que dans le cas des affaires d'immigration, nous n'avons pas de politique européenne en matière d'immigration. La réalité, elle est là. On en a des bouts, mais on n'a pas une politique cohérente. Peut-être que d'ailleurs Emmanuel Macron, qui va présider l'Europe pendant 6 mois, c'est peut-être un des sujets. Parce qu'aujourd'hui, qui croit sérieusement que si on remet des douaniers et de la police de l'air et des frontières à Perpignan et à Menton, que les questions migratoires de ceux qui seront arrivés par bateau en Italie, en Espagne ou je ne sais pas où, ou en Biélorussie, en Pologne par le biais de la Biélorussie, qu'un beau matin, on va refermer toutes les frontières et qu'on va contrôler tous ceux qui passent aux frontières. On voit bien qu'on a cette difficulté-là. Aujourd'hui, l'Europe est la bonne échelle pour traiter la question migratoire. Le problème, ce n'est pas qu'on la traite trop, c'est qu'on ne la traite pas au bon niveau et qu'on ne la traite pas. On a le traité de Dublin qui ne va pas, les Dublinés, ça ne fonctionne pas. On voit bien que la question des spots à l'extérieur de l'Europe n'est pas bien traitée. On a laissé Angela Merkel traiter avec les Turcs tout seul parce qu'on ne s'en est pas, nous, occupés au bon niveau. Donc,
L'Union européenne n'a pas mis le holà comme elle est en train de le faire avec la Pologne en ce moment.
Tout à fait, mais à ce moment-là, on a une agence Frontex qui a eu un peu plus de moyens mais qui n'en avait pas avant 2015. Donc, dans ce cas-là, on a une vraie politique européenne migratoire.
Vous pouvez comprendre Kaczynski qui dit que c'est l'avantage des pays forts et notamment de l'Allemagne. Quand il y a un pays fort, on lui dit rien. Quand il y a un pays faible, entre guillemets, de l'Union européenne,
non, mais
on lui
reproche. L'histoire de la Pologne, c'est encore autre chose. Par exemple, qu'on puisse être en désaccord avec le fait que Angela Merkel ait décidé toute seule de dire à ce moment-là, on peut le faire. D'accord. Ça, c'est une chose. Qu'on puisse reprocher ça ou être d'accord, c'est une chose. La question de la Pologne, c'est autre chose. La question de la Pologne, c'est qu'ils sortent de notre conception de l'État de droit. Il serait Il serait en Afrique du Nord, on dirait la même chose.
Je voudrais, pour répondre à nouveau à Alexandre Delvecchio en disant...
De Vecchio, pardon.
En disant, il faut... il faut, quand on parle de l'État de droit et qu'on envisage de le modifier, le faire d'une main tremblante, selon l'expression juridique. Je pense que il faut, pour qu'on nous comprenne bien, c'est quoi cet état de droit ? C'est celui qui protège. Je veux dire, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne ont beaucoup d'intérêt pour ce qui est la notion de procès équitable. Par exemple, les droits de la défense. C'est ça, les droits. Les droits, c'est la défense, avoir le droit à un avocat, avoir le droit à une procédure contradictoire. Mais si la Convention européenne, certains veulent sortir de la Convention des droits de l'homme. Cette convention, elle s'est bâtie au fil des générations depuis la création.
Les droits de l'homme, nous les avons inventés. On n'a pas besoin de l'Union européenne pour les respecter,
c'est la norme supérieure.
C'est une vision française revendique la volonté, la souveraineté populaire.
C'est dans notre constitution.
En matière de justice.
Pour le coup, ils étaient souverains en 1789.
En matière de justice, la Cour européenne des droits de l'homme considère que le parquet français, le procureur français, n'est pas une autorité judiciaire. Parce qu'il n'est pas indépendant, voyez-vous. Ça ne nous a pas obligés et contraints à changer le statut du parquet. Ça fait partie du droit national, du droit interne. Vous voyez, même la France est critiquée.
Oui, j'allais vous le dire. C'est pour ça que je ne sais pas exactement ce qui se passe en Pologne, mais est-ce que en France, j'allais vous poser la question, qui nomme les juges du parquet ? On ne peut pas dire qu'en termes d'indépendance, ce soit parfait non plus. Vous l'avez dit vous-même.
Je suis d'accord, mais il y a une réforme constitutionnelle qui a été à chaque fois renvoyée parce qu'on n'avait pas les 3/5, qui prévoit un renforcement de la protection statutaire des parquets. Et on est mis en cause par la Cour européenne, mais ça ne nous a pas contraints non plus de changer nos lois.
Après, rien ne nous empêche, nous, de faire ce le tribunal, enfin la cour de Karlsruhe, donc la cour constitutionnellement de fait, c'est-à-dire d'examiner l'ensemble des lois et d'avoir éventuellement un débat. Et je le redis, le Parlement français aurait intérêt à faire ce que fait le Parlement allemand, c'est-à-dire à examiner l'ensemble des directives. Ça fait des années qu'on avait proposé qu'il y ait une commission, il y a la commission des lois, la commission des affaires sociales, il n'y a pas de commission des affaires européennes dans le Parlement français.
La commission des lois examine
quand même. Elle examine, mais tu sais très bien, la commission des lois, c'est déjà 40% de l'ensemble des lois qui sont traitées avec l'ensemble du dispositif. Donc en fait, tu sais très bien, je crois que tu y siéges comme moi.
Pour l'applicabilité des directives.
Je pense qu'on aurait intérêt à avoir au sein du Parlement français, comme l'ont les Allemands, un dispositif qui suit tout ce qui se passe au sein de la Commission européenne. Y compris parce que, effectivement, le fait que les députés français soient porteurs de la souveraineté populaire, soient porteurs de la souveraineté nationale, on aurait intérêt à avoir ces examens, y compris cette contestation, qui est un débat, ça me paraît essentiel. Je pense qu'on n'a pas assez de contestation et de débat des propositions des directives européennes.
Par exemple, je vais donner un exemple pour être concret, pourquoi le poids pris par la Cour de justice européenne et par les juges de manière générale me choque. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête, parce qu'on parle beaucoup de l'immigration en ce moment, mais il y aurait d'autres exemples, par exemple sur la GPA, mais l'exemple qui me vient en tête, c'est le fameux pacte de Marrakech, dont on dit qu'il n'a pas de valeur juridique. Or, aujourd'hui, on sait très bien que si un juge européen, par exemple, décide de faire que c'est un texte qui a une valeur constitutionnelle, dire finalement c'est un texte qui va dans le sens des droits de l'homme, etc. Et dans ce texte, il y a un certain nombre de contraintes et qu'il y a une jurisprudence européenne là-dessus, elle risque de s'appliquer en France. Pour moi, c'est une dérive. Personne n'a voté pour ça et c'est un pouvoir incroyable que s'arroge le juge. Et je me demande, enfin, je serais politique, je serais quand même très agacé que des juges empiètent ainsi sur mon prérogative. Ils sont là pour appliquer la loi. Or, de plus en plus, ils produisent du droit.
Dans ce cas-là, ce que j'aimerais, pour le coup, c'est que ce soit vous ou d'autres, en tout cas les femmes et les hommes politiques, dans ce cas-là, que ce soit Pécresse ou Bertrand ou d'autres, dans ce cas-là, proposer clairement de sortir de l'Union européenne.
Mais non,
vous pouvez, par exemple, vous pouvez dire, nous, on est pour rester dans le marché unique, mais ne pas appliquer un certain nombre de dispositifs. L'intérêt de la campagne présidentielle, c'est que peut être mis au débat.
C'est ce qui est en train d'être mis au débat, c'est ce que je disais, tout n'est pas sacré.
Il est mis au débat que sur les questions migratoires. Le problème, c'est qu'à un moment donné, où on prend le paquet cadeau, mais on n'en prend pas qu'un bout du cadeau. Voilà. Donc, où on se dit, on ne veut plus que les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent. Mais ça ne peut pas être à la carte. De ce point de vue-là, il faut reconnaître Arnaud Montebourg, il est plus large, il propose quelque chose de plus large, il dit c'est au moment de l'intérêt national. C'est au moins le mérite d'être clair.
Il y a une méthode. Le problème, je pense, de beaucoup de candidats, c'est qu'effectivement, c'est très long à renégocier les traités. Moi, je pense que ça se renégocie, c'est tout à fait légal et tout ça n'est pas sacré. Mais si on se lance là-dedans, effectivement, ça va mettre des années. Il y a quand même un moyen pour rappeler aux juges qu'ils ne sont que des juges et qu'ils ne sont que là pour appliquer la loi et non pour la faire.
C'est déjà pas mal.
C'est effectivement de faire des référendums. C'est la voie que propose un certain nombre de candidats. Effectivement, Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais aussi Xavier Bertrand et maintenant Valérie Pécresse. Et effectivement, ce serait un acte fort qui permettrait d'affirmer la souveraineté populaire.
Non.
Et ça ferait en sorte peut-être que certains juges aient eux aussi la main tremblante avant d'appliquer.
Valérie Pécresse Valérie Pécresse et les autres que vous venez de citer ne proposent pas un référendum sur l'Europe, mais sur l'immigration.
Oui.
Et on ne sait toujours pas les termes, parce que ça ne sera jamais une réponse oui ou non. Donc moi, je trouve que c'est de la belle phrase qui ne veut pas dire grand-chose et qui, en plus, ne va pas au fond des sujets. Donc je trouve que ce n'est pas extrêmement honnête dans un débat qui doit être mené et qui peut être mené. Ensuite, sur le sujet de la Pologne, moi, je suis navrée, mais c'est encore la même chose. La Pologne dit « je ne veux pas » et à travers ce que vous dites, je ne veux pas qu'on m'impose les règles du club dans lequel je suis rentrée. En revanche, et parlons très concrètement, quand il s'agit de bénéficier des euros du plan de relance, là, la Pologne dit si, on en veut. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi être responsable et grand garçon, dire je rentre dans ce club, j'en respecte les règles, et si je ne veux pas respecter les règles, eh ben j'accepte de ne pas avoir de chèque derrière.
En réalité, on a vu, tout le monde ne respecte pas les règles. Heureusement, les traités sont violés chaque jour, il faut quand même le rappeler.
Heureusement,
parce que sinon, on n'en sortirait pas. Schengen, au moment de la crise du Covid, a été foulé aux pieds. Il a fallu rétablir les frontières. Et d'ailleurs, on était les seuls
Schengen,
à attendre que tout le monde soit d'accord.
Schengen permet le décrochage. Chaque pays peut décrocher quand il le souhaite.
Maastricht et le critère des 3%, l'OTAN aujourd'hui et heureusement n'est pas appliquée. Donc heureusement que tout ça n'est pas un carcan qui nous oblige totalement. Sinon, tous nos États seraient aujourd'hui en faillite.
Mais aujourd'hui, quand on est sur l'histoire de la présidentielle, il n'y a pas besoin d'un référendum derrière. Si Valérie Pécresse, imaginons qu'elle soit la candidate ou Xavier Bertrand, je ne prends pas position dans ce fabuleux débat de la droite. Mais il suffit de dire devant les Français,
je vais
moi,
appliquer
président,
tel programme,
je n'appliquerai plus les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne.
Bien sûr.
Les Français, ils achètent ou ils n'achètent pas. Mais c'est posé. Et à ce moment-là, il n'y aura pas besoin d'un référendum derrière. Tout le monde aura bien compris. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que l'élection d'un président ou d'une présidente de la République au suffrage universel,
Brexit, hein.
C'est posé, c'est clair, les Français s'expriment. Voilà. On évoquait là, hier ou avant-hier les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Voilà, François Mitterrand, 2 mois avant, a dit clairement « Moi, président, j'abolirai la peine de mort. » Les Français, quand ils ont élu François Mitterrand, ça faisait partie des propositions. Ils étaient d'accord, pas d'accord,
non,
mais, ils l'ont accepté.
Non, parce que là, il y a une bataille entre le droit, justement, et la politique. Et s'il n'y a pas cet acte extrêmement fort,
et l'acte de la présidente de la République, qu'est-ce qu'il y a plus fort ?
Les juges prendront des décisions.
Non, mais derrière, et par ailleurs, au-delà de la renégociation, si un président de la République, à 20h, il s'exprime en disant « À compter de maintenant, puisque j'ai légitimité populaire, parce que j'ai été élu, je décide de ne plus appliquer les traités, le traité instituant la Cour de justice de l'Union européenne », ils vont faire quoi à Luxembourg ? Ils vont faire quoi ?
Je suis heureux de vous l'entendre.
Voilà. Donc du coup, là, il y a une légitimité populaire. Mais dans ce cas-là, oui, mais le problème de ça, de Vecchio, c'est qu'en fait, tout ça, c'est d'une hypocrisie totale. Parce que qu'est-ce que fait Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand ? Ils savent très bien que c'est extraordinairement compliqué, mais ils veulent surfer sur la vague identitaire qui traverse la droite, mais à la fin pour arriver...
Ça peut être.
Mais à la fin, ils savent très bien qu'ils iront à Bruxelles dire c'est pas gentil, c'est mince.
Ça, je suis d'accord, ils sont pas les seuls. François Hollande a fait la même chose
Je crois pas qu'il est... Enfin, on verra, il n'est pas encore candidat à président de la République cette
fois-là. La dernière fois, il avait été élu sur le TCE, etc. Il avait dit qu'il renégocierait, il n'a pas renégocié.
Je ne vois pas en quoi les traités européens empêchent un pays comme la France d'avoir sa propre politique migratoire. Je ne vois pas ce qui nous empêcherait de modifier les flux migratoires, les quotas. On peut très bien le faire sans avoir à dénoncer quelque traité que ce soit. Je ne comprends pas vraiment cette question, voyez-vous. On agite des fantasmes en réalité.
Et d'ailleurs,
de même sur la nationalité, la Cour européenne de justice a toujours considéré que les questions de nationalité relevaient de la compétence des États. On peut très bien revoir l'accès à la nationalité, les conditions. On n'a pas besoin de dénoncer les institutions.
Alors,
je vais lui répondre précisément. Essayez, parce que je connais moins le droit que vous, mais je suis sûr, comme vous êtes de bonne foi, vous allez me répondre. Par exemple, ce qui me vient en tête sur l'immigration, la directive retour. Que François Hollande a été obligé d'appliquer. On ne peut pas... avant, on pouvait expulser quand on l'avait décidé. Là, on est obligé de signaler, je crois, 3 semaines ou 1 mois avant. Vous m'arrêtez si je me trompe, parce que je peux être imprécis. Vous connaissez encore une fois mieux le droit que moi. Quelqu'un qui devrait être expulsé, on est obligé de lui dire... avant et qu'il s'en aille en réalité de lui-même. Vous voyez bien que c'est très compliqué et que c'est une procédure tellement compliquée que 80% des déboutés des droits d'asile restent sur le territoire. Ça fait partie, ce qui me vient en mémoire, un cas très précis qui est dicté par le droit européen.
Mais non, c'est simplement un manque de moyens si on n'arrive pas à refouler étrangers. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de le faire.
Une pause et ensuite Philippe Doucet, vous répondrez à Alexandre Devecchio et à Georges Fenech. Et il y a Prisca Thévenot qui est là aussi. 18h37, ce sont les débats d'Europe Soir. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et on continue à parler de la primauté du droit européen sur le droit national avec mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio, avec Georges Fenech, ancien magistrat, Philippe Doucet, membre du Conseil national du PS, et la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot. Alors pendant la pub, on vous dit tout sur Europe 1, vous avez l'habitude. On parlait justement de la Pologne et la question que je posais et que je vous pose à tous les quatre, est-ce que du coup, le fait d'être un État ultra conservateur, ça a une limite à la présence dans l'Union européenne.
C'est exactement ce qu'on se disait juste. Vous saurez tout de la pub. C'est ce qu'on se disait juste avant. Ça dépend ce qu'on met derrière ultra conservateur. Là, encore une fois, le cas qui nous occupe en ce moment, c'est la Pologne. Et la Pologne, il s'agit de remettre en cause l'état de droit avec le sujet de l'exécutif versus le judiciaire. Donc ça ne remet pas en cause des fonctionnements internes sur des sujets secondaires, si je pourrais me permettre, mais c'est vraiment remettre en cause l'état de droit tel qu'on le conçoit au sein de l'Union européenne.
Et donc, la loi c'est pour précise, ça qu'on parle de
sortir.
On en parlait avant
c'est pour
la
ça qu'on parle
quelle
de sortir.
Quelle est la loi précise, qui est votée en Pologne en ce moment sur les juges?
Mais justement,
la loi
elle
précise,
est en train...
C'est que le parti majoritaire désigne à la majorité simple la Cour suprême. C'est-à-dire que comme si en France, En Marche nommés...
On nomme Laurent Fabius au Conseil constitutionnel sur la simple volonté du président de la République.
Non, là c'est de mauvaise foi, monsieur De Vecchio. Ça c'est une polémique, le Figaro. Non, derrière après, faut être... le Conseil constitutionnel est nommé à la fois par un certain nombre de membres, sont nommés par le président du Sénat.
C'est le Conseil national de la magistrature.
Oui, mais c'est l'équivalent.
Conseil supérieur.
Il y a la Cour suprême aussi. La première des lois, je vais vous le dire, parce que j'ai le texte sous les yeux. La première permet aux politiques de contrôler le Conseil national de la magistrature. Les 15 juges qui y siègent sont normalement nommés par d'autres juges et seront désignés d'après cette loi par un vote à la majorité simple du Parlement. Bon, ça c'est la première loi. La deuxième loi porte sur une refonte de la Cour suprême où tous les juges âgés de plus de 65 ans sont renvoyés, c'est-à-dire à leur large majorité, par l'actuelle présidente de la Cour. Voilà, donc, ça c'est les deux lois.
Pour être complet et pour pas qu'il y ait une désinformation de M. De Vecchio sur le Conseil constitutionnel français, le président du Sénat nomme, je crois que c'est 3 membres du Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale c'est 3, le président de la République c'est 3, d'accord ? Et dedans, dans cette affaire-là, ça veut dire que comme ça tourne, puisqu'on n'a pas toujours eu le président de la République sous la même couleur, le président de l'Assemblée nationale sous la même couleur, et même le président du Sénat, donc le Conseil constitutionnel français est très divers politiquement.
Il le nomme après avis des commissions. Commission des lois.
Tout à fait, avis des commissions des lois. Donc, du coup, donc c'est pas la logique. Là, ce qui gêne en Pologne, c'est que le parti majoritaire, qui est un parti ultra-conservateur, voilà, donc lui veut maîtriser, en fait, la nomination des juges, parce qu'un certain nombre de juges ont refusé qu'un certain nombre de lois considérées comme non-démocratiques soient mises en place. Après, par rapport à ce qui était évoqué juste avant la pub, d'abord, en Pologne, vous pouvez avoir une législation anti-avortement, ça ne rentre pas dans le cadre de l'Union européenne.
C'est du droit interne.
Vous pouvez avoir une loi contre la logique LGBT tant que vous ne taquez pas les droits humains, puisque l'Union européenne, c'est les droits humains. Et franchement, les Polonais, après ce qu'ils ont vécu sous l'Union soviétique, je pense que les droits humains, quand ils sont rentrés dans le Club Europe, ça les intéressait un tout petit peu, et pas simplement la question, les questions financières. Et pour répondre à votre question, un État ultra-conservateur, que ce soit sur les aspects économiques, que ce soit sur les aspects sociaux, peut être dedans. Le sujet, c'est de respecter l'état de droit et notamment les droits humains. Mais franchement, nous Français, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui avons inventé, si je puis dire, les droits de l'homme, on a plutôt envie d'être dans un club où tout le monde respecte les droits de l'homme. Autrement, on n'a pas envie d'être dans un club.
Simplement, je ne sais pas si ça présente un intérêt, je le dis quand même. On critique beaucoup cette réforme polonaise donc, qui semble mettre la main sur la nomination des juges. Je voudrais quand même rappeler jusqu'en 2008 en France, qui était le président du Conseil supérieur d'administrature ? C'était le président de la République. Qui était vice-président du Conseil supérieur d'administrature ? C'était le ministre de la Justice. Et qui a fait la réforme 2008 ? Nicolas Sarkozy.
Mais merci de votre honnêteté. La France était une démocratie avant 2008, je pense.
Et pourtant, vous voyez, on avait un système comme ça aussi, où c'était l'exécutif qui était chargé de vérifier le respect de l'indépendance de la justice. Donc,
et la France était dans l'Union.
Aujourd'hui, c'est le premier président de la Cour de cassation qui est président.
Et donc, on est en train de se reprocher d'avoir évolué, c'est ça ?
Non, on a bien aimé, mais je veux dire, balayons aussi devant notre porte. Ben on critique beaucoup la Pologne, qui veut faire un système un peu comparable à ce qu'on avait jusqu'en 2008.
Il ne s'agit pas de critiquer simplement.
Ils ont un pouvoir extrêmement important.
Il
s'agit de mettre en garde. Encore une fois, là, ce qui a été dit, c'est l'ensemble des critères ne sont pas réunis pour garantir une indépendance. C'est ça le sujet. Donc il ne s'agit pas tout de suite de dire au contraire, même Clément Beaune l'a répété, ministre en charge des relations européennes, l'a répété. L'objectif, et en tout cas le souhait de la France, n'est absolument pas que la Pologne sorte de l'Union européenne. Pas du tout.
Mais
il s'agit quand même de pouvoir... Il s'agit quand même de pouvoir dire entre nous, dans un club, attention, là, il y a peut-être une défaillance. Là, peut-être, il y a une dérive. Et voilà.
Prisca Thévenot, soyons clairs. Clément Beaune le dit aussi parce parce que, et je vous le dis à tous les quatre, vous le savez, la Pologne est l'usine européenne. Nommez-moi un pays européen qui n'a pas une usine de quelque chose en Pologne. C'est-à-dire que c'est quand même un pays qui fabrique pour les autres pays européens.
Oui,
le jour où la Pologne sort de l'Union européenne...
Elle n'a pas le plan de relance. Elle n'a pas le plan de relance. Elle en a besoin. Mais honnêtement, qu'est-ce que font les usines ?
Non, mais je ne vais pas faire mon Arnaud Montebourg, mais en sens inverse, la Pologne a beaucoup bénéficié de l'Union européenne.
Bien sûr, non seulement financièrement,
mais par contre, les travailleurs français, eux, ils ont pris cher parce que le nombre de délocalisations qui ont eu lieu, et j'ai encore vu une entreprise à Argenteuil qui a déménagé en Pologne. Donc, effectivement, salaire plus bas, et je ne parle pas là du plombier polonais qui venait travailler en France. Je venais là des usines entières françaises qui sont parties en Pologne.
Vous parlez directement à des gens comme Carlos Tavares, et si vous lui dites demain, le patron de Stellantis, que son usine qui actuellement est en Pologne va se trouver, je ne sais pas, dans la Drôme ou quelque part dans le Morbihan, évidemment, la voiture va coûter.
Vous voyez bien, par rapport au début de notre discussion, que dans le problème d'un certain nombre de Français aujourd'hui avec l'Union européenne, le fait que d'avoir le sentiment de jouer le jeu et qu'à la fin, les classes populaires en France ont pris très cher avec les délocalisations. Donc, je veux bien que M. Tavares se dise, et c'est normal, il est patron de Peugeot et de tout ce qui est autour.
S'il y a bien quelqu'un qui est européen, c'est Carlos Tavares.
Voilà, bon, donc il peut se dire ça. Mais en attendant, on voit bien qu'on a un problème de concurrence sociale, fiscale au sein de l'Europe qui pose un problème. Donc, que les peuples, y compris le peuple français, une logique de défiance par rapport à l'Union européenne, quand on voit que le Luxembourg et pratique, la fraude fiscale légale. Quand je joue avec les Pays-Bas, on a des entreprises françaises dont le siège est installé à Amsterdam parce qu'ils peuvent ne pas payer d'impôts sur les sièges, etc.
Je me pose la question, ça pose des sujets. Que restera-t-il de l'Europe ? Déjà, nous n'avons pas d'Europe de la défense, c'est clair.
On en parle beaucoup pourtant.
Les seuls soldats qui vont au sacrifice, c'est les soldats français. Nous n'avons pas de politique étrangère. Pas de véritable politique étrangère commune, il faut quand même le dire, de l'Union européenne.
On n'a pas beaucoup entendu nos voisins européens sur l'histoire des sous-marins.
Par exemple. On n'a pas été très soutenus. Évidemment.
La présidente de la Commission, quand même, est intervenue.
En même temps, si elle n'était pas intervenue, on
n'a pas de politique européenne sociale, on peut le dire. Il n'y a pas d'alignement. Bon. Il nous reste une Europe quand même juridique basée sur les valeurs universelles, celles pour lesquelles on s'est engagé, sur ces grandes valeurs, ces chartes, ces traités que nous avons co-signés avec les autres. Si on sort de la norme, la suprématie de la norme juridique européenne en laissant faire les États chacun ce qu'ils veulent, en portant atteinte à ce qui, pour nous, est le cœur de la démocratie, la séparation des pouvoirs par exemple, ça veut dire qu'est-ce qui reste de l'Europe, quoi ? Franchement,
je pense que pour le coup, on touche, parce que là, on fait beaucoup de droit, on touche aussi à deux philosophies en réalité de l'Europe qui s'opposent et qui, à mon avis, on peut être manichéen et dire certains sont des démocrates et pas les autres. Moi, je crois qu'il y a surtout deux visions du monde. Il y a une Europe occidentale, hyper individualiste. Mai 68 en France, c'était la révolution des droits individuels. Mai 68 en Europe de l'Est, c'était la lutte contre le joug communiste. Donc tout ça pour dire que c'est des États qui ont recouvré leur souveraineté
avec les
après
événements à Prague notamment.
Leur souveraineté après en avoir été privés pendant des 70 ans, des décennies, et qui du coup ils sont peut-être plus attachés que nous et qui dans ce qui est des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de remettre en cause la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on oublie d'ailleurs, et du citoyen de 1789, mais on est dans une logique qui n'est plus celle-ci, Georges Fenech. On est dans une logique de la multiplication des droits individuels à l'infini, une logique un peu calquée sur les États-Unis. Et effectivement, l'Europe de l'Est n'est pas dans cette mouvance-là. Et c'est donc deux visions de l'Europe qui s'opposent. Et je ne suis pas sûr qu'au sein même des sociétés occidentales, tout le monde partage cette vision-là de liberté individuelle.
C'est ce que vous disiez, Philippe Doucet, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être revenir à une Europe plus réduite.
En tout cas, moi, je pense que... Enfin, je ne suis pas sûr, parce que pour le coup, on ne va pas reprocher aux Polonais, quand vous sortez de 70 ans de joug soviétique, et par ailleurs, qu'on fait suite... c'est un pays qui a une histoire terrible. Donc nous, on a vécu une autre nation depuis longtemps. On est une des plus vieilles nations en Europe avec la Grande-Bretagne, nos amis britanniques.
Et qui a été un des pays les plus forts de l'Europe avant 1660.
Mais depuis 1660, les Polonais...
Il y a eu quelques petits partages.
Les Polonais, ils ont pris cher. Ils ont pris très cher. Et donc, quand ils se retrouvent pour la première fois, parce que paradoxalement, 1989, ça peut paraître loin, mais en fait, c'est très près. Hein, la chute du mur de Berlin, c'est pas si vieux que ça. Et donc, eux, ils ont envie de s'exprimer comme nation, comme les Hongrois, qui eux aussi ont beaucoup souffert, y compris dans les partages après la Première Guerre mondiale, les Tchèques. Enfin, on voit bien que la question nationale, le fait de vivre sa nation dans toute sa puissance, dans toute sa force, c'est un élément qui est fort. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que on était obligé de faire l'élargissement, mais aujourd'hui, si on veut faire l'approfondissement, on ne peut pas le faire en même temps que ces nations qui nous ont rejoints récemment, qui sont sur un chemin européen récemment. Mais bon, donc ça, je partage ça. Et je pense qu'effectivement, si on veut avancer, il faut avancer à 6, à 7, à 8, à 9, à ceux, aux pays fondateurs de l'Europe occidentale. Par contre, on s'en servirait, répondre à Georges Fenech, parce que, OK, il manque plein de choses à l'Europe, mais je pense franchement, Georges, que tu ne pourras plus avancer sur l'état de droit si le reste de la dimension n'avance pas. Parce que derrière, tu ne peux pas expliquer à un ouvrier dont la boîte a été fermée et délocalisée en Pologne ou en République tchèque que demain, la norme européenne, c'est super parce que lui, il a vu qu'il a perdu son boulot, qu'il est en galère pour payer les traites de sa maison et que dans l'endroit où il est, il ne va pas retrouver de boulot. Et donc, à un moment donné, il y a les gagnants de l'Europe, c'est vrai. Bien, on peut aller voilà, avec l'euro, tu vas en vacances en Croatie, t'as l'euro, et ça. Et puis il y a les perdants de l'Europe. Et en France, des perdants de l'Europe, il y en a aussi beaucoup. Et politiquement, si on ne veut pas l'entendre, si on ne veut pas le comprendre et l'intégrer, on n'arrivera plus à avancer, et y compris sur ses mains, il y aura même des éléments de recul. Parce que le fait qu'on n'ait pas de politique migratoire en Europe, eh ben, qu'on ne porte pas ça, on pourrait l'avoir en France, mais elle n'est pas faite, la réalité, parce qu'on a bien mis des policiers. Hein. Quand il y avait les migrants qui passaient par l'Italie, on a mis des policiers dans la montagne. Hein. Bon. Eh bien, on peut avancer dessus, mais on voit bien que si on veut faire un saut politique, si on veut faire un saut sur l'Europe, il faut faire un saut politique.
Ça, c'est assez amusant, parce que je demandais à Prisca Thévenot, il y a à peu près 40 minutes, par où on commence, et on ne sait toujours pas par où on commence, justement, pour réformer les choses.
C'est-à-dire
par où on commence. Là, tous les quatre, vous faites un constat de toutes les choses qui ne vont pas dans l'Europe.
Oui,
mais pour l'instant, par où on commence pour justement réparer.
Mais je pense qu'il y a plusieurs chantiers à mener. Mais déjà, il faut s'entendre sur le fait qu'il nous faut plus d'Europe, mieux d'Europe, mais absolument pas un repli national sur plein de volets.
Déjà
le sujet.
Ça.
Non, mais le sujet de l'immigration, effectivement, l'échelle pour le traité, c'est l'échelle de l'Union européenne. Nous ne sommes pas une île. Donc nous avons effectivement des frontières avec un certain nombre de pays. Il va falloir aussi l'accepter, ça, je pense. Sur le sujet de la défense, c'était un des sujets à l'agenda de la rentrée de septembre de cette année. Le président de la République a réuni l'ensemble des parlementaires de Renew, donc le consortium de députés européens de la majorité présidentielle, pour travailler et pour plancher sur le sujet de la défense européenne en vue de la présidence que nous allons avoir dans quelques semaines. Donc oui, en fait, il ne s'agit peut-être pas de choisir un sujet, mais bien de dire que s'il y a une priorité, c'est de renforcer l'Europe sur l'ensemble de ses compétences, parce qu'effectivement, sinon, nous allons vraiment avoir un blocage et nous allons, de fait, avoir un problème assez important de renoncement sur le projet européen.
Merci à vous quatre, Prisca Thévenot, Philippe Doucet, Georges Fenech, Alexandre Devecchio. Fin de ce premier sujet. On se retrouve juste après le journal de 19h avec un coup de projecteur sur la propreté à Paris.